Donc bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des noyaux actifs variables qui sont des blazars. Alors qu'est-ce qu'un blazar ? Un blazar, c'est quelque chose comme vous voyez ici, un noyau actif avec un trou noir supermassif dont le jet est dirigé vers vous. Donc l'avantage, c'est qu'on a un boost relativiste, c'est-à-dire qu'on a des intensités beaucoup plus grandes. On a aussi des vitesses superluminiques. On a l'impression que le jet arrive vers vous à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, ce qui fait un rétrécissement du temps. Et donc, tout est plus variable. Même si ce n'est pas intrinsèquement variable, ça va être plus variable. Il y aura une émission qui sera dominée par l'émission synchrotron, que nous allons décrire. Et puis, l'émission synchrotron sera amplifiée et transformée en prenant l'énergie des électrons relativistes en source gamma. Ce sera l'émission quantum inverse. On va voir qu'on a aussi l'émission de multimessagers, des neutrinos, on aura aussi des rayons cosmiques, le CR, de ultra haute énergie. Donc, ce sont les jets radio, on va le voir, sont des accélérateurs de particules à ultra haute énergie. On va décrire tous ces mécanismes de rayonnement. Alors déjà, pour vous décrire un peu la définition d'un blazar et la géométrie que cela implique, vous voyez, on a ici le trou noir supermassif qui est à l'origine de l'activité du noyau. On a symbolisé ici le gaz, le plasma qui tourne autour du trou noir à très grande vitesse, 20 000, 30 000 km par seconde, et qui crée les Broad Line Regions, les BLR, les raies très larges. Puis un réservoir de gaz, de poussière, qui tourne autour du trou noir, donc le disque d'accrétion, etc. Et puis on a un jet qui est émis par le trou noir, et si l'observateur se trouve exactement dans le jet à plus ou moins 10, 20 degrés, alors on a le phénomène blazar, on a quelque chose qui vient vers vous avec beaucoup d'énergie. Ici, ce serait un quasar ou un noyau actif. Donc ce sont des quasars avec un jet qui vient très proche de la ligne de visée. Alors pourquoi on l'appelle BL-LAC ? Donc il y a plusieurs interprétations, je trouve que c'est celle-là la meilleure. Le premier objet, c'était BL-LAC, BL Lacerti, dans la constellation du Lézard. C'est une étoile variable, très puissante, qui a été identifiée très tôt, avant qu'on connaisse ce qu'étaient les noyaux actifs. Et donc on l'a appelé, c'est le type en fait, c'est un quasar en fait, ce n'est pas une étoile, et on l'a appelé du type BL-LAC, donc BL-LAC quasar, ça fait un blazar. Donc, émission donnée par le jet et une grande variabilité parce que, justement, on a un boost qui peut être très grand, d'un facteur 100 à 1000. Et donc, c'est les sources dans lesquelles on a détecté des neutrinos cosmiques de très haute énergie, 300 téraélectronvolts, viennent de blazars. Alors, on détaille ici ce qu'on appelle boost relativiste. D'abord, il y a un effet Doppler qui, vous le connaissez bien, lorsqu'il y a une source ici qui a une très grande vitesse. Vous voyez que les fronts d'onde dans la vitesse de déplacement, dans la direction de déplacement, sont resserrés. Donc, on a un décalage vers le bleu. Ça, on le voit même dans le son et les voitures qui ont un son qui s'approche ou pas. Ici, on aurait un décalage vers le rouge. Et puis, l'effet Doppler, c'est si bêta. Alors, bêta va être très grand ici. On a des électrons qui sont presque relativistes. Donc, V sur C est proche de 1. Et on a la fréquence à laquelle on voit arriver dans cette direction. Décalé vers le bleu, ce sera cette formule que vous connaissez bien, avec le facteur aussi de Lorentz, sur racine à moins bêta 2. Et on a aussi, comme vous voyez, l'émission qui est décalée vers l'avant. Il y a aussi une aberration optique qu'on a bien décrite ici, dans cette géométrie-là. Vous voyez que si même dans le fluide, le plasma qui émet, il émet dans toutes les directions de façon isotrope, lorsque l'observateur va le regarder, quand on fait un changement de repère avec le facteur de Lorentz gamma qui est très grand devant 1, eh bien, on voit que tout ce qui est émis dans 90 degrés, par exemple ici phi', ça va jusqu'à la flèche rouge va s'incliner, vous allez voir, tout ce qui s'approche de ce côté va être confiné dans un petit angle, et l'angle ici, on peut le voir sur cette formule, lorsqu'on fait phi' égale 90, on a 1 sur gamma. Donc si gamma est très grand, l'angle est tout petit. Donc on a une émission qui vient vers vous et c'est pourquoi elle est très amplifiée. Donc on a à la fois le facteur Doppler qu'on va appeler D pour Doppler qui est la différence des fréquences. Vous avez quelque chose qui est décalé vers le bleu et évidemment ça dépend de θ. Ici c'est θ égale 0 mais ici vous voyez que θ égale 0 ce sera presque infini si β égale 1. Donc on va avoir des multiplications, donc non seulement sur la fréquence qui va être plus bleue, mais aussi sur le flux qui va être multiplié par D2. Mais il y a d'autres choses, c'est que comme les fronts d'onde arrivent très vite et que le messager qui est la lumière a la même vitesse pratiquement que le jet, on va avoir une compétition et on va avoir ce qui vient vers vous beaucoup plus rapidement que ce qui est derrière. Pourquoi ? Parce que ce qui est derrière a un retard, un chemin qui doit parcourir. Donc ici, vous avez un flux qui est multiplié encore par D à cause de la contraction du temps. Donc cette contraction du temps va être le fait que même si la variabilité est par exemple de l'ordre du mois ou de l'année, vous aurez une variabilité sur des heures ou des jours à cause de cette variabilité ressentie, pas intrinsèque. Et de plus, comme il s'agit d'émissions synchrotron de ce jet, vous avez une émission qui varie en loi de puissance avec une puissance moins alpha qui est proche de 1. Donc finalement, vous allez voir une émission plus grande parce que vous regardez un petit peu plus en avant puisque ça va être décalé vers le bleu. Et donc vous avez quelque chose qui va varier comme D à la puissance 4. Donc, vous voyez que si vous avez couramment une vitesse qui vaut 98% de C, vous avez un facteur de Lorentz C, un D qui est à peu près 10, et donc là vous pouvez avoir 10 000. Donc ça explique pourquoi lorsqu'on regarde tous les noyaux actifs, on est dominé par ceux qui sont amplifiés par ce facteur 10 000 et on voit les blazars de façon bien plus grande et un biais de sélection sur les blazars. Alors la variabilité et la taille, on a déjà décrit la semaine dernière qu'on pouvait par la variabilité déduire la taille de la source qui émet cette variabilité, mais dans ce cas-là, il faut corriger de cet effet de réduction des temps. Donc on sait que sur les échelles de heures et de jours, ce n'est pas possible pour un noyau actif assez massif comme ici. Les tailles réelles sont plus grandes que les variations que vous voyez. Donc la variabilité est accrue. Alors j'ai mentionné qu'on détectait des neutrinos. Alors quels sont les télescopes qui peuvent détecter ces neutrinos ? Vous en avez un. Celui qui est le plus gros actuellement, c'est ce qu'on appelle Ice Cube. C'est un télescope, entre guillemets, qui utilise la glace de l'Antarctique, donc au pôle sud. Et vous avez ici un kilomètre, enfin plus d'un kilomètre, puisque vous avez 2,8 km entre la glace. Alors vous avez au-dessus de la glace, vous avez 80 stations de ce type. À chaque station, vous avez un fil avec des détecteurs de lumière, des photomultiplicateurs qui constellent ces fils. Ici, vous voyez Amanda, qui est un précurseur de Ice Cube et qui a été rajouté ici. Et que va-t-on détecter ? En fait, on va détecter une lumière Cherenkov. Pourquoi ? Parce que ces particules vont à la vitesse de la lumière, pratiquement. Mais l'indice de la glace, ici, est supérieur à 1. Donc, vous avez une vitesse dans la glace qui est C sur N, donc qui est plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide. Donc les particules, électrons, muons, tons, etc., qui arrivent avec la vitesse de la lumière, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu, et vous avez un petit peu comme un avion supersonique qui a un onde de choc, qui fait un bang, si vous voulez. Là, c'est pareil, mais avec la lumière, vous avez un choc, une onde de choc et une lumière UV, qui est appelée la lumière Cherenkov, celui qui avait découvert le phénomène. Et c'est cette lumière qui va être détectée par les détecteurs de lumière sur le fil. Et comme vous en avez beaucoup, vous pouvez avoir plusieurs sur la trajectoire de la particule. Vous aurez beaucoup de détecteurs qui vont s'allumer. Donc, vous pourrez retrouver la trajectoire de la particule, la direction de sa direction, etc. En général, vous avez aussi des gerbes de particules si vous avez des rayons cosmiques. Donc, par exemple, c'est un petit schéma de ce Ice Cube. C'est la Terre. Vous voyez que Ice Cube, c'est ce qui est au pôle sud. Donc, l'observateur ici serait la tête en bas, si vous voulez. L'atmosphère. Alors, il y a beaucoup de rayons cosmiques qui vous donnent par des gerbes dans l'atmosphère, et vous avez beaucoup de neutrinos, de muons, etc., de particules qui sont atmosphériques et qui nous gênent, en fait, pour détecter les neutrinos cosmiques. Donc, on va essayer de s'en débarrasser. Vous en avez qui sont de l'atmosphère, qui sont du pôle Nord. En fait, ces particules traversent la Terre sans problème. Et elles sont toujours à la vitesse de la lumière lorsqu'elles traversent Ice Cube, ici. Donc on va avoir ici représentés les détecteurs hein, sur chaque fil et le muon relativiste qui arrive et qui fait son onde de choc Cherenkov et qui va illuminer tous les détecteurs. Donc vous avez la trajectoire qui est ainsi détectée. Donc c'est cet appareil qui permet de détecter les neutrinos. Alors ici, en fonction de l'énergie, vous voyez qu'à très très haute énergie, il n'y a que des neutrinos cosmiques. Alors qu'à basse énergie, vous avez tout ce qui nous gêne. Les rayons cosmiques qui viennent du Soleil, par exemple, et qui font des gerbes dans l'atmosphère, ils sont à basse énergie. Ici, vous avez en fonction de l'énergie le flux reçu, et vous avez toutes ces neutrinos cosmiques qui sont ici. Donc c'est comme ça qu'on les a détectés. Alors très récemment, en 2017, il y a un neutrino vraiment très très énergique de 300 téraélectronvolts qui a été détecté en direction d'un blazar. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous dire quels sont les processus qui se passent dans le jet. On sait qu'il y a des électrons, des protons qui émettent une émission synchrotron, c'est-à-dire des électrons qui spiralent dans un champ magnétique. Mais on se demande si les processus sont seulement dus aux électrons qui rayonnent encore plus que les protons ou ce sont des processus qui touchent aussi les protons. Alors on les appelle hadroniques, c'est les particules lourdes, et les légères sont les processus leptoniques. Il y a toujours compétition entre ces deux processus, mais il n'y a que les processus hadroniques qui vont vous produire des muons et des neutrinos muoniques. Alors ici, ce que vous avez comme processus possible, c'est dans un champ B, le proton qui va aussi spiraler dans le champ B et émettre des rayonnements synchrotrons, mais avec un proton avec un photon, va produire des paires. Alors ça, c'est un peu catalysé par le noyau, parce qu'en fait, le noyau crée un champ électrique qui va séparer les paires. Vous avez aussi le proton et le photon vont produire des pions. Alors vous avez trois pions, un pion positif, ce sont des mésons, des particules intermédiaires entre les plus lourdes et les plus légères, on les appelle les mésons, les pi plus, pi moins, pi zéro. Et tout ça va nous créer des cascades de muons et d'électrons myoniques et de neutrinos myoniques, etc. Si vous comparez avec les processus leptoniques uniquement, vous avez l'émission synchrotron, bien sûr, des électrons qui spiralent dans le champ magnétique, et puis vous avez, en fonction des photons qu'ils ont eux-mêmes émis, donc les photons synchrotrons, vous avez un passage d'énergie de l'électron au photon, et vous avez un photon qui ressort avec beaucoup plus d'énergie. Donc si c'est un X mu, par exemple, vous allez avoir un photon gamma à la suite. C'est ce qu'on appelle le processus Compton inverse. C'est le photon qui prend de l'énergie à l'électron, alors que le processus direct, c'est le contraire. Et puis, vous avez la production de paires avec des photons. Donc, si on a détecté ce fameux neutrino par IceCube, avec 300 tests, ça veut dire qu'on a pas mal de processus hadroniques dans les blazars. Et ça, c'est une information très importante. On sait que dans cette région-là, dans ce blazar-là, ce blazar s'appelle TXS, etc., c'est un blazar donné, et c'est le seul pour l'instant à avoir été détecté avec un neutrino aussi énergique. Donc c'est assez important. Alors il a été détecté, il est dans plusieurs phases. Les phases sont dues au fait qu'on a un taux d'accrétion de matière qui va enrichir le trou noir plus ou moins important. Donc si vous avez un taux d'accrétion de matière assez important, vous avez une forte luminosité, et vous avez des X mu. Si vous êtes dans une phase d'accrétion plus faible, vous avez une moins forte luminosité. Par contre, vous avez des X plus durs. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et c'est dans cette phase-là qu'on a les processus hadroniques et des neutrinos. Alors voici un petit peu une simulation, une modélisation de ce blazar. Vous voyez un petit peu le dessin pour vous fixer un peu la scène. Vous avez un observateur qui regarde le trou noir avec un disque d'accrétion vu de face, le jet qui vient vers l'observateur. Et puis, dans le jet, vous avez des tas de particules très, très relativistes qui vont émettre de la radio synchrotron, mais aussi de l'optique, de l'infrarouge, à toutes les longueurs d'onde, et puis des X-mu, et puis enfin des X-rays. Alors, vous voyez que le spectre caractéristique d'un blazar est dominé par l'émission du jet. On ne voit pas vraiment tout ce qu'on voit d'habitude qui vient de la région BLR, etc., ou du disque d'accrétion. On voit surtout le jet, tout le reste disparaît. Alors on voit une émission à deux pics. Celle-ci, vous voyez, l'optique est ici en fonction de la fréquence. Vous avez la radio, l'infrarouge, l'optique, les X, les gamma. Ce premier pic, c'est l'émission synchrotron, donc dans un champ magnétique. Et puis le deuxième pic, c'est lorsque vous prenez ces photons-là, prennent de l'énergie aux électrons et font des gamma de haute énergie. Et en fait, il y a un problème qui a été remarqué depuis longtemps, c'est que vous avez dans le fond extragalactique, entre les galaxies, vous avez un fond cosmique qui est du infrarouge de 10 à 100 microns, qu'on appelle le fond extragalactique de lumière, et qui est dû à la formation des étoiles de toutes les galaxies. Donc ça nous fait des photons un petit peu de faible énergie, mais qui vont produire, avec les gammas de forte énergie, ces photons infrarouges vont produire des paires. Donc vont diminuer, en fait, le nombre de paires que l'on va voir. Vous voyez, c'est ce qui est en bleu. Une fois qu'on a absorbé ces paires de très grande énergie, on va retrouver des énergies encore plus grandes ici, et puis les neutrinos. Donc c'est la modélisation en prenant en compte ce processus. Alors, la variabilité de ces blazars, comment on la détecte? On la détecte par les rayons gamma. Les rayons gamma, il y en a qui peuvent être détectés dans l'espace. Alors, il y a eu plusieurs satellites dans le temps. Il y avait ce qu'on appelait Gamma Ray Observatory et l'instrument Y. Aujourd'hui, il y a un satellite qui est très puissant, qui s'appelle Fermi, avec un large array télescope. Et le principe de détection de ces rayons cosmiques, enfin, ce n'est pas ces rayons cosmiques, c'est les rayons gamma, de haute énergie, hein, 30 MeV à 300 GeV, c'est bon, d'abord, il y a un couvercle pour éviter les coïncidences et toutes les émissions qui nous gênent. Et ensuite, on a des feuilles comme ceci qui vont convertir les gammas en des paires, paires électrons-positrons, et puis des détecteurs en dessous qui vont tracer la trajectoire de ces particules. À la fin, il y a un calorimètre qui nous demande l'énergie de ces particules, l'énergie totale. Donc ça, c'est dans l'espace. Mais on peut aussi avoir des télescopes au sol, qui sont basés sur l'émission Cherenkov, dont on a déjà décrit, donc des particules qui arrivent et qui, en interagissant avec l'atmosphère, de la même façon, l'atmosphère a un indice qui est supérieur à 1, donc une vitesse inférieure à la vitesse dans le vide de la lumière. Donc on a cet effet Cherenkov et on a des gerbes de particules aussi, d'où des petits télescopes optiques. Alors il y en a quelques-uns, par exemple, ici, vous en voyez, qui sont des miroirs ordinaires qui détectent la lumière UV. Et vous en avez plusieurs pour avoir toute l'étendue de la gerbe. Donc, avec ce genre de télescope, vous avez pu voir, par exemple, un blazar qui est très proche, qui est une radiosource aussi, 3C279. Vous voyez, en fonction du temps, alors le temps, ici, on a des journées. Hein. Ici, c'est 100 jours. Ici, ça varie sur la journée. Donc, c'est des variabilités très fortes pour un quasar très massif. Donc on a des variabilités qui sont assez fortes, plus qu'un facteur 10, que vous voyez en gamma, que vous voyez en rayons X, mais pas tout à fait synchronisés. Vous les voyez plus synchronisés en optique. Vous avez la bande rouge, la bande bleue, etc. La polarisation. Et puis aussi en radio, la 5 GHz, 15 GHz, toutes ces couleurs sont des émissions radio qui ont été observées en même temps pour voir un petit peu s'il y avait une synchronisation, etc. Donc vous voyez qu'on peut suivre en fonction du temps, ces variabilités. Alors, ce n'est pas du tout périodique, vous avez vu, sauf dans de rares cas, lorsqu'on a une binaire. Alors ça, c'est un objet OJ-287 qui est assez rare dans le ciel, si bien qu'on l'a suivi depuis 120 ans, donc ça, on le connaît bien. Il y a deux trous noirs supermassifs qui sont en paire. Donc, évidemment, l'un tourne autour de l'autre et on a une période caractéristique de 11 ans, qui est la période de rotation. Il y a un petit peu plus que période de 11 ans, comme vous voyez, il y a sans doute, non seulement une période de rotation, mais aussi des épicycles. Donc il y a plusieurs fréquences qui se voient dans le suivi. Depuis 1900, on suit ce quasar. Il y a aussi la précession due à la relativité générale, il y a la nutation. Et on pense aussi qu'il y a des sursauts d'activité lorsque le trou noir compagnon plonge dans le disaccrétion du gros trou noir. On a des sursauts. C'est pour ça qu'on voit tous ces sursauts avec une période caractéristique de 11 ans. Mais à part ces cas particuliers, toutes les variabilités ne sont pas périodiques parce que les trous noirs ne sont pas en paire. Alors, comment on classe les blazars? On a vu qu'il y avait deux sortes de blazars selon le pic, la fréquence du pic de l'émission synchrotron. On a vu qu'il y avait un spectre avec deux bosses, donc on peut avoir le pic de l'émission synchrotron. Alors, soit le H, c'est pour high, bien entendu, High Synchrotron Peak, blazar, donc on va l'appeler IBL ici, ou bien low. Et on s'est aperçu qu'on avait un pic avec haute fréquence synchrotron lorsque le quasar est dans un état de faible luminosité. Et le contraire, lorsqu'il a un pic de faible fréquence, c'est un fort quasar. On le voit même sur un seul quasar qui a des sursauts. On voit ici que l'émission est plutôt à un faible pic synchrotron, mais dans un état de faible luminosité. À forte luminosité, c'est le contraire. Donc, vous voyez, on a une corrélation, une anticorrélation entre la fréquence, le niveau de la fréquence synchrotron et la luminosité du blazar. Alors, pour je rappelle l'émission radio-synchrotron, ou synchrotron à toutes les longueurs d'onde, hein, c'est une particule chargée très relativiste qui spirale dans un champ magnétique. Et l'émission se fait avec, alors ici, gamma, c'est très grandement 1. Donc on peut dire que l'énergie totale de l'électron, c'est l'énergie cinétique de l'électron. L'énergie de masse, c'est presque négligeable. Et on voit que la fréquence caractéristique va être proportionnelle à ce gamma 2. Donc finalement, la position de cette émission synchrotron, ça va être dû surtout à l'énergie cinétique des électrons qui sont émis. Et évidemment du champ magnétique, mais qui varie beaucoup moins, celui-là. Donc ici, vous voyez ce genre de blazar avec un pic synchrotron qui est plutôt bas. Ici, vous en voyez un pic synchrotron qui est plutôt haut. Vous voyez qu'ici, l'émission synchrotron va piquer par ici, alors qu'ici, on est à basse fréquence. Et vous voyez que ça arrive pour des luminosités qui sont bien supérieures. Donc on a ces deux cas-là qui nous aide à classifier, et sans doute le paramètre clé, c'est encore une fois le taux d'accrétion de matière de l'objet en question. Si il accrète beaucoup, il va y avoir beaucoup de luminosité, et finalement on va voir que ceux-là ont un gamma des électrons qui est plus faible que ici, d'où le changement de fréquence de synchrotron. Alors voici la séquence des blazars en fonction de la luminosité. Le pic de la fréquence synchrotron augmente ici. Donc, lorsqu'il est très fort, on a une faible luminosité. Donc, on a ces H ici, intermédiaires, les lots. Et puis, les plus fortes luminosités, ce sont des quasars qui sont vus avec le jet qui vient vers vous et qui sont donc on appelle ça flat spectrum parce qu'il y a un spectre plat en radio. Mais c'est les plus forts, les blazars de plus forte luminosité. On essaie donc d'avoir une unification dans toute cette diversité pour essayer de comprendre les mécanismes de rayonnement. Alors ici, vous voyez qu'en effet, il y a les radiogalaxies qui sont vues, elles, avec le G vu de face, alors que les blazars, c'est vu vers vous. Et donc, on voit que ça se séquence de façon régulière entre les radiogalaxies qui sont assez faibles en luminosité et puis ce qui est très fort, le plus fort, c'est les quasars ici, grâce au boost Doppler. Alors, le spectre de 3C273, celui-ci, c'est un cas particulier, c'était le premier quasar qui a été détecté en 1964 par Martin Schmidt, et on voit que c'est un blazar, en fait. On a un jet qui arrive vers nous, on a les deux pics caractéristiques synchrotron ici, et puis le pic Compton. Et on pense que l'angle du jet n'est pas complètement 0 ni 10 degrés, mais 30 degrés. Et on a en effet une émission qui est assez polarisée et une variabilité qui vient de ce jet. Alors je vous rappelle que ce quasar, c'est celui qui est vu à toutes les longueurs d'onde, très bien vu parce qu'il est assez proche de nous. Ici, c'est une image du Hubble Space Telescope. On voit le jet qui est en fait très fragmenté. C'est grâce à ces fragments qu'on a pu voir la vitesse propre, les mouvements propres de ces petits fragments, et on s'est aperçu que, de façon apparente, il semblait aller plus vite que la lumière d'un facteur 10. C'est là qu'on voit qu'il y a un boost Doppler à cause de la direction du jet vers nous. Ici, on le voit en rayons X, où ils perdent de l'énergie lorsqu'ils sont très proches. Ils ont encore beaucoup d'énergie, et ensuite, en radio, ils vont émettre lorsque les électrons ont perdu un peu leur énergie, donc un peu plus loin. Mais dans toutes les longueurs d'onde, jusqu'en gamma, on voit ce blazar. Alors, cette séquence de blazar qu'on a identifiée, on peut même le reproduire ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que les plus fortes luminosités commencent à des fréquences plus basses. Et évidemment, la fréquence Compton, qui est reliée à la fréquence synchrotron, puisque finalement, on fait juste une collision entre les électrons et le photon synchrotron, on va aussi translater vers la droite lorsque on va tomber en luminosité. Vous voyez que les plus faibles en luminosité sont translatés complètement, donc on a plus haute fréquence. Pour Fermi, c'est ici. Alors, il y a deux façons d'interpréter cette émission Compton, c'est soit ce sont les mêmes photons qui sont dans le G, qui sont upgradés en rayon gamma, en prenant l'énergie des électrons, donc on appelle ça self-Compton, SSC, ou alors simplement, vous voyez, le G ici, lorsqu'on a un quasar très fort avec un disque d'accrétion qui émet beaucoup, on peut avoir aussi des photons externes, pas seulement internes au G, externes, et ça va nous booster encore plus l'émission Compton. Donc parfois, on a besoin de cette composante externe, on va le voir dans certains cas, pour interpréter les spectres des blazars. Donc ici, on le voit. Alors, comme je vous le disais, ici, le G a un certain facteur de Lorentz, ici, gamma, avec une vitesse de groupe. Par contre, il n'est pas la même que les vitesses de tous les électrons dans le G. Les électrons dans le G sont un petit peu chaotiques. J'ai dessiné un tout petit peu des directions des électrons. On peut le considérer comme une boule avec une boule chaotique d'électrons, mais vous voyez que le facteur gamma des électrons peut être bien plus grand que la vitesse de groupe de tous les électrons, qui est plutôt de l'ordre de 15, 20, pas plus. Donc on s'est aperçu que le gamma des électrons ici était à forte luminosité plus faible que celui des blazars à plus faible luminosité. Donc ça nous explique pourquoi la fréquence de pic qui est proportionnelle au gamma 2 est plus basse. Donc voyez, on comprend un peu ce qui se passe à basse énergie, on a des gammas plus forts. Donc il faut comprendre ça, mais on va voir dans la modélisation, on commence à le comprendre. Donc on peut aussi interpréter le G comme un petit peu une épine dorsale qui va vers l'avant, et puis ensuite on va avoir une gaine qui est le flot qui revient des électrons, on va voir. Alors on a simulé ce genre de G et d'émission dans le G par des processus leptoniques et hadroniques. Alors hadroniques, on les a déjà un petit peu décrits, les protons gamma avec qui donnent des pions et des tas de petites particules. Et puis le processus leptonique, c'est beaucoup plus simple, c'est seulement électrons, synchrotrons et Compton inverse. Et pour avoir ces processus hadroniques, il y a des conditions d'énergie. Donc seuls les quasars les plus énergiques arriveront à avoir ces processus-là. Et puis aussi, il faut que le rayon de l'armor des particules soit plus petit que le G pour que le G puisse continuer à accélérer. Et donc ça vous donne une contrainte sur le champ B. Il faut un champ B plus grand que 10 Gauss pour avoir un rayon de l'armor de façon à ce que les particules ne sortent pas du G et ne perdent pas leur accélération. Et en fait, quand on compare pour certaines galaxies, celle-ci par exemple, le 3C454, on a fait un modèle, vous voyez les points de mesure sont les points rouges, et les modèles, c'est un petit peu différent, on voit des Gauss, mais pas tellement différent. C'est-à-dire que les processus leptoniques et hadroniques se comparent assez bien, et on pourrait peut-être envisager les deux ou les deux ensemble. Alors, lorsque vous avez l'interprétation entre un G, alors le G, c'est un courant en quelque sorte, vous avez des particules qui sont à grande vitesse, vous avez un courant qui descend vers le quasar, et vous avez de part et d'autre quelque chose qui remonte de l'autre côté, enfin un jet qui monte et puis qui redescend, si vous voulez. Et vous avez un champ magnétique qui est toroïdal, en fait, qui tourne autour du jet. Ça, c'est assez important. C'est une, en quelque sorte une batterie cosmique, car vous avez un champ B assez fort qui, dans le jet, va être relâché dans le milieu intergalactique. Et ça permet d'expliquer le champ intergalactique, on ne sait pas exactement d'où sort le champ magnétique au début de l'univers et même tout en courant de l'univers. Il y a cette batterie cosmique qui est dans les AGN et qui me permet d'expliquer pourquoi on a des graines de champs magnétiques qui ensuite sont amplifiées par des dynamos, etc. Il nous faut des graines et les noyaux actifs sont une façon d'expliquer l'origine des champs magnétiques dans le cosmos. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les G? On peut dire qu'il y a un plasma qui est neutre, globalement. On aurait pu penser qu'il y a seulement des électrons et des protons, mais pas du tout. En fait, il y a toute une série de particules. On crée des paires aussi dans le G, donc il y a E+, E-. Et en fait, en faisant des modélisations, on s'aperçoit qu'il y a 10 fois plus de positrons que de protons pour égaliser les électrons. Donc, finalement, il y a énormément de particules. Les électrons émettent beaucoup plus, mais perdent leur énergie beaucoup plus vite. on voit que la durée de vie d'une particule électron ou proton est proportionnelle à la masse à la puissance 5,5. Donc les protons perdent beaucoup moins leur énergie en émettant du synchrotron. Par contre, les électrons sont réaccélérés dans le jet par des chocs. Donc finalement, cela compense. Et on voit ici, d'après un calcul de Ghisellini, où était la vitesse de groupe, le facteur de Lorentz le plus grand. Ici, vous voyez qu'au début du jet, le jet s'accélère encore. Et puis, lorsqu'on est à 1000 fois la distance, on a un facteur gamma beaucoup plus grand. Ici, vous avez le disaccrétion et puis l'émission synchrotron. Donc, vous voyez qu'on arrive un petit peu à comprendre un peu ce qui se passe dans le jet. Il se passe aussi qu'il y a une petite cascade qui entretient les photons dans le jet, puisque ici, on peut symboliser ici un jet comme un cylindre, en quelque sorte, avec un champ magnétique, ici, et puis le facteur gamma de la vitesse de groupe. Mais vous voyez que si on introduit un photon externe, par exemple du disque d'accrétion, il va créer des paires. Les paires vont spiraler dans le champ magnétique. Il va y avoir une diffusion Compton, donc d'autres gamma qui vont recréer des paires, et ainsi de suite. Donc on pense qu'on a des effets cascades qui permettent de maintenir l'énergie. Et en fait, en gros, tous ces photons prennent leur énergie sur l'énergie cinétique du jet, qui est considérable, et peu à peu, le jet va se ralentir et arriver dans des lobes radio qui seront plus loin. Donc, tout ça, c'est de savoir comment on va dissiper l'énergie cinétique du jet et en rayonnement. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que dans ce jet, vous n'avez un gamma au départ qui est peut-être constant, mais ensuite, on a de la viscosité au bord du jet et qui fait que, sans doute, dans l'épine dorsale du jet au centre, on aura un gamma plus fort. Dans la simulation en fonction de l'angle, on peut voir qu'en effet, c'est pour les petits angles. Ici, c'est en log, donc c'est un angle très petit. Le jet est très, très collimaté. Alors, les simulations numériques vont vous montrer ça. Donc, les mécanismes d'éjection, ils sont très liés au champ magnétique. Alors, champ magnétique, on a maintenant mesuré cela. Vous savez qu'on a fait l'image de trou noir de Messier 87 avec une résolution fantastique due à l'interférométrie entre plusieurs télescopes radio qui observent à 1000 mètres de longueur d'onde. Et ce que vous voyez peut-être dans cette image autour de l'ombre du trou noir, vous avez des lignes là qui sont les lignes de champ magnétique. On a mesuré la polarisation de l'émission et on voit que le champ magnétique est en effet toroïdal. C'est un peu le cartoon que vous avez là. Alors, pourquoi le champ magnétique est si fort? Eh bien, parce qu'il y a un spin à la fois du trou noir et aussi de la matière qui tombe et qui, par conservation du moment angulaire, tourne très, très, très rapidement ici. Et ensuite, autour du trou noir, elle a des vitesses qui vont devenir relativistes. Et le champ magnétique, lui, il est amplifié par cet effet dynamo. Et vous avez un champ magnétique qui va piéger et collimater le flux. Et toute cette énergie est prise, on peut le montrer, par le phénomène de Blandfors-Najek, des couples de MHD qui vont prendre l'énergie sur le trou noir. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir l'énergie du jet, mais on va ralentir le trou noir, on va prendre l'énergie de rotation du trou noir, et on sait que 25% de l'énergie du trou noir est dans sa rotation, donc on va pouvoir prendre énormément d'énergie. Alors voici des simulations à la fois de MHD, mais aussi de relativité générale, parce qu'il y a, lorsque le trou noir a un spin, il va entraîner l'espace autour de lui, donc vous avez tous ces effets à prendre en compte. Mais vous voyez un petit peu le genre d'instabilité et d'un jet qui n'est pas tout à fait régulier, comme vous pourrez le voir, mais qui a une certaine morphologie. On s'est demandé, justement, si l'efficacité du flot du jet ici était plus grande si la matière qui tourne autour du trou noir tourne dans le même sens que le spin du trou noir, ou si elle est prograde ou rétrograde. Alors, ce paramètre de rotation du spin du trou noir, il est quantifié par un paramètre A, sans dimension, qui est entre 0 et 1, en valeur absolue, enfin, qui est à moins 0,9 s'il est rétrograde, justement, ou plus 0,9 qu'il est prograde. Et on voit que, finalement, l'efficacité est beaucoup plus grande lorsque la matière ionisée tourne de façon synchrone, enfin prograde, direct par rapport au trou noir, ce qui est peut-être intuitivement vrai parce qu'on sait que lorsque on a un gaz prograde, l'orbite la plus stable est beaucoup plus proche du trou noir elle peut rentrer même à l'intérieur de l'horizon, elle est un rayon gravitationnel, alors que lorsqu'il s'agit de gaz rétrograde, on ne peut arriver que jusqu'à 9 fois ce rayon-là. Donc on est plus loin, et donc c'est certainement pour cela que c'est moins efficace. Alors, oups, donc ici, on vous montre quelques simulations pour vous donner une idée de ce qui se passe, qui est certainement assez réaliste par rapport à la réalité. Vous avez ici, ça commence par un cône, mais ça ne collimate pas complètement. Vous avez de la recollimation dans le jet qui est dû. Alors ici, vous avez un jet qui monte, qui arrive à une onde de choc au bord, et le jet retombe, va former un cocon autour du jet qui va recollimater plusieurs fois d'ailleurs, ici, le jet qui est presque cylindrique. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit dans la réalité quand on voit l'émission du jet. Et ça dépend évidemment de l'énergie que vous avez. Si vous mettez beaucoup d'accrétion sur le trou noir, vous avez un jet beaucoup plus énergique. Ce qu'on appelle FR2, dans les premières observations de jet radio, on avait deux classes, FR1, un jet très faible, qui ne fait que 5 kg par sec, comme vous voyez, et ici un jet très fort, qui dissipe très peu d'énergie au départ, mais qui va dissiper beaucoup plus loin. Ça, c'est le caractéristique de FR2. Et en effet, on arrive à reproduire dans les simulations numériques, comme vous voyez, avec le champ magnétique ici, exactement ces deux sources, FR1 et FR2. Et là, ce sont des observations. Vous voyez, un FR2, les FR2 sont beaucoup plus puissants et donc sont plus rares. Vous avez l'exemple de Cygnus A, où on a un jet radio qui émet à partir d'ici. On voit plus le jet qui vient vers vous, donc il est plus brillant, mais en fait, il dissipe assez peu d'énergie. Ce n'est qu'à la fin qu'il parvient à dissiper toute son énergie, alors que les sources les plus fréquentes, de faible puissance, dissipent dès le début. Donc elles sont très petites. Et puis, on s'est posé la question, c'est très intéressant, de savoir s'il y avait une émission d'annihilation de la matière noire. Il y a toujours ce problème en astronomie qui est permanent. Est-ce qu'on peut avoir des signatures de la matière noire ? Alors, on avait des candidats jusqu'à très récemment qui étaient les WIMP, les particules hypothétiques, qui avaient 100 fois la masse du proton. Donc, lorsqu'elles devaient s'annihiler progressivement dans les objets compacts, et donc on aurait attendu à des gamma, des rayons gamma, qui aient cette forme-là. Alors, on a essayé de voir si dans les blazars qu'on a observés très fréquemment en rayon gamma, est-ce qu'on peut interpréter tout ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit, c'est les points avec des barres d'erreur ici. Et vous voyez, l'interprétation, elle a plusieurs sources. Elle a, là, c'est le fond de toutes les sources gamma, hein, c'est le fond extragalactique. Donc, il y en a une partie qui est due aux galaxies qui forment des étoiles, des starbursts. Pourquoi ? Parce que les supernovées émettent aussi des rayons gamma. Donc ça, ce n'est pas une contribution très importante, c'est la plus petite. Vous avez des galaxies radio, et puis vous avez aussi les blazars qui sont en bleu, qui sont beaucoup plus forts que les autres galaxies radio, parce qu'on les voit avec le jet qui vient vers vous. Et vous voyez que finalement, les blazars arrivent à reproduire sans même qu'on ait besoin de matière noire. Donc apparemment, on ne voit pas la matière noire dans le fond extragalactique de gamma. Alors ces gamma, on a détecté surtout dans les blazars, comme on le voit, et on a détecté très loin, justement, puisqu'ils sont très puissants. On en a un qui est à Z égale 6, et qu'on a récemment identifié par Moretti et al. En 21. On a essayé de savoir si on arrivait par l'émission synchrotron autonome avec les processus leptoniques, mais ça ne marche pas. On a observé un niveau d'énergie qui est ici. Il faut rajouter les photons externes dont on a parlé, c'est-à-dire qui proviennent du disaccrétion et de la BLR, pour augmenter l'énergie qui est détectée en gamma. Donc, voici un exemple où on a besoin de ces photons externes. Donc, dans le moment qui me reste, je vais parler des rayons cosmiques. Je vous ai dit qu'au départ, que ces jets de blazars étaient des accélérateurs de rayons cosmiques formidables. Pourquoi formidables ? Parce qu'on a trouvé des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Ultra haute, ça veut dire quoi ? 10 puissance 18 électronvolts, c'est gigantesque, c'est des hexa-électronvolts. Le péta-électronvolt, c'est 10 puissance 15, hein, c'est tous les puissances 3. Et c'est 7 ordres de plus, 7 ordres de grandeur de plus que ce qu'on peut faire sur Terre dans les plus grands accélérateurs. Donc, si vous voulez, les jets de blazar sont des accélérateurs gratuits que nous donne la nature pour regarder les particules, comment s'accélèrent les particules. Et quels sont ces accélérateurs ? C'est donc ce jet. par les processus ici. Alors, dès le départ, ça c'est quand même remarquable, dès 1966, des papiers comme Greisen et puis Zatzepin et Kuzmin, donc on appelle ça le phénomène GZK, d'après l'initiale de ces trois auteurs, juste après la découverte du fond micro-ondes, qui est dû au Big Bang, hein, le vestige du Big Bang, qui a été découvert par Penzias et Wilson dans les années 65. Juste en 1966, ils se sont dit, ben ça c'est quand même curieux, s'il existe un fond de rayonnement micro-ondes, eh bien on doit avoir une coupure dans le rayon cosmique de haute énergie, car lorsqu'on a un photon du micro-ondes ici, il va y avoir des créations de photopions, des créations de gerbes, etc., mais on va supprimer tous les photons ultra-énergiques. Et en effet, on va le voir, on a vérifié ce principe GZK. Alors, comment on détecte ces particules de ultra-haute énergie? Eh bien, on a, par effet Cherenkov, encore une fois, hein, on en a parlé, on a des particules de très haute énergie avec une vitesse relativiste qui sont supersoniques, si vous voulez, enfin superluminiques, par rapport à la vitesse dans l'air ici. Alors, en fait, ici, c'est un des détecteurs de Pierre Auger. C'est un télescope en Argentine, dans l'hémisphère sud. Et ce sont des détecteurs à eau. Ici, dans chaque détecteur, vous avez 12 tonnes d'eau. Et c'est dans l'eau que vont se produire ces particules et ces effets Cherenkov. Donc, on mesure la vitesse, la lumière Cherenkov par des petits télescopes, des petits détecteurs photomultiplicateurs. Vous avez aussi, même dans le sol, lorsque les particules sont beaucoup plus énergiques, vous avez des scintillateurs qui permettent de détecter tous les phénomènes. Vous avez 10 puissance 6 particules dans la gerbe, donc c'est énorme, et vous pouvez avoir la direction de ces particules. Vous avez aussi un télescope à plus haute altitude, qu'on appelle HIT, qui est formé de miroirs, un peu comme celui-là. Donc, le résultat de ces observations avec ces télescopes, c'est le spectre suivant. Vous avez, en fonction de l'énergie, voyez, l'énergie totale de tout ce qu'on a détecté en gris, et on peut le décomposer dans les particules détectées. Vous avez des protons, mais vous avez aussi des ions d'hélium, d'oxygène, du fer. Tout cela contribue, évidemment, une faible contribution. La plus grande, c'est les protons. Et ce qu'on voit, c'est un flux en énergie qui a des lois de puissance, ici, mais entre les lois de puissance, vous avez des cassures. On appelle ça un genou, et ici une cheville, justement, pour imager un petit peu. Ce sont des cassures dans les spectres de lois de puissance. Et vous voyez enfin la fameuse coupure GZK qui, en effet, était prédite depuis 1966. Donc, on ne verra pas de photons plus... Alors, la cheville est déjà à 10 puissance 18.5, et nous, on observe des particules de rayons cosmiques à 10 puissance 20. Donc, c'est assez énorme. Alors, est-ce qu'on peut les localiser un petit peu? Vous avez ici reproduit, peut-être à la fois des masses, mais ici, vous voyez l'identification des sources. On a un quasar qui est assez proche. Le plus proche de nous, c'est Saint-Urusa. On voit des photons gamma qui sortent et puis des rayons cosmiques ici. M87, dont on a fait l'image du trou noir, est aussi un fort quasar. Par contre, il est 5 fois plus loin et on ne l'a pas détecté. Simplement, à une distance, on n'est pas assez sensible. Et sans doute, il doit émettre. Et puis des AGN plus proches qui émettent aussi dans cette direction. Alors, comment on peut le diriger? Eh bien, c'est à haute énergie qu'on arrive à retrouver la direction des rayons cosmiques. Parce que ces rayons cosmiques, dans le champ magnétique de la galaxie, quand ils sont à faible énergie, vous voyez que la directivité, la déflexion, elle dépend beaucoup de l'énergie. À faible énergie, ils sont complètement randomisés en direction. Et par contre, lorsqu'ils sont très forts en énergie, ici 160 EM, donc 10 puissance 20, avec 10 puissance 20, vous avez une directivité assez probable. Bon, donc on voit bien d'où ils viennent. Ce n'est pas avec ça qu'on verrait d'où ils viennent, mais avec ceux qui sont à ultra haute énergie. Alors, ces accélérations de particules, à quoi sont-elles dues? Alors, elles sont dues à deux choses. D'abord, on le connaît bien, ça, dans les supernovae, on a des chocs. Il y a beaucoup de rayons cosmiques dans la Voie lactée qui sont dus aux supernovae. Et vous avez la supernovae du crabe, par exemple. C'est tout un tas de chocs et de champs magnétiques. Et le processus de Fermi est justement qu'à chaque choc, vous avez les particules qui passent dans un choc gagnent de l'énergie. Et il faut les faire passer au moins une millier de fois dans le choc pour avoir accélération notable. Alors, ce que je voulais remarquer, c'est qu'on peut relier l'énergie à la taille de l'accélérateur, puisqu'il faut que l'accélérateur retienne ces particules. Donc, il faut que le rayon de l'amorce, c'est-à-dire le rayon de spirale des particules chargées, qui est R ici, soit plus petit que la zone. Donc, il faut qu'une énergie en unité de 10 puissance 9 soit quelque chose qui fonctionne de B, le champ magnétique, et R, la taille. Alors, vous voyez, c'est le fameux plot de Hillas qui peut être fait en fonction du champ magnétique B et de la zone caractéristique de l'accélérateur. Si vous avez, par exemple, une étoile à neutrons, un pulsar, donc c'est de l'ordre de kilomètres, la taille possible, vous avez donc un certain champ magnétique nécessaire assez fort. Ici, vous avez le LHC, pour comparer, ces accélérateurs. Ici, vous avez une naine blanche, vous avez des AGN, des blazars, et puis des choses un peu plus grandes, mégaparsec, c'est un amas de galaxies, et on va voir qu'en effet, on a des accélérations de Fermi, des chocs à la taille d'un amas de galaxies. Ici, vous voyez la comparaison entre une supernovae, par exemple le crabe, avec un choc de supernovae. Ça, c'est plutôt de l'ordre du kilomètre, une centaine de kilomètres. Et ici, vous avez un amas de galaxies où on peut observer des émissions synchrotrons, on appelle ça des reliques radio, qui font un mégaparsec. Donc, vous voyez un peu les accélérateurs. Et à chaque fois, on pense qu'il s'agit d'une accélération dans les chocs. Ici, c'est un choc qui est dû à au merger de deux petits sous-groupes, des sous-amas, et on a un grand choc. Et à chaque fois qu'une particule passe dans un choc, alors vous voyez, c'est un petit peu comme un jeu de ping-pong, hein, c'est le petit cartoon qui est fait là, il faut que les particules reviennent dans le choc souvent, et ça, c'est dû au champ magnétique un peu chaotique qui se resserre et qui, dans le resserrement, va renvoyer la particule. On appelle ça un miroir magnétique. Donc, les particules peuvent revenir dans le choc plusieurs fois et être accélérées comme ça. Ça, c'est le principe de l'accélération de Fermi dans les chocs. Donc, ici, on a un choc caractéristique qui est adiabatique, hein, avec un gaz parfait, hein, pour donner un petit ordre de grandeur. Et on a une vitesse qui arrive et un rapport entre les deux vitesses de 4. Et on peut avoir deux processus de Fermi, un qui est linéaire ou un secondaire. Et puis, on peut comparer à ces énergies, est-ce que les neutrinos et les rayons cosmiques sont compatibles entre eux. Tout ce qu'on observe avec des rayons gamma, des neutrinos, et puis les ultra haute énergie des rayons cosmiques. Alors, en fait, ces rayons cosmiques vont aussi produire des neutrinos. On a des neutrinos cosmogéniques. Et puis, on a un peu calculé ce qui viendrait, vous voyez en vert la couleur revient de cette origine-là. Et ici, on a aussi des nus qui proviennent de cette partie gamma ici, avec des pions. Et donc, on s'attendrait à voir cette énergie de neutrinos. C'est à peu près compatible avec les neutrinos que détecte Ice Cube. Donc, on pense qu'on a des neutrinos qui peuvent arriver des deux côtés. Alors, il y a un autre accélérateur encore plus puissant. Donc, il y a le mécanisme de Fermi et le mécanisme de reconnexion magnétique. Et parfois, on a besoin de cette reconnexion magnétique pour expliquer la gigantesque accélération des rayons cosmiques. Alors, vous avez l'habitude peut-être de voir ces reconnexions dans le Soleil. On a des éjections de particules et de rayons cosmiques dans le Soleil grâce à ces reconnexions de champs magnétiques. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous avez des champs magnétiques de sens opposés, une ligne de champ dans ce sens, une ligne de sens dans cet autre, avec sans doute un courant entre les deux. Et lorsque vous resserrez par une instabilité quelconque, les lignes de champ se resserrent, vont se reconnecter. Vous avez une grande énergie qui est déployée à cette reconnexion-là et des particules qui sont envoyées de façon relativiste et qui pourraient expliquer, par exemple, cette très grande variabilité à 20 minutes près de ce blazar. On pense qu'il y a eu des accélérations de ce type-là. Donc, je passe parce qu'on est assez en retard ici. Alors, voici un petit peu les modèles qui ont été faits de cette reconnexion magnétique. Ici, vous avez donc les champs B qui sont dans un sens et les champs B de l'autre. Vous avez la fameuse équation de Maxwell qui vous relie le courant J, donc la nappe de courant ici, qui vient vers vous ou qui part de l'autre côté avec le champ B. Vous avez des instabilités de cisaillement ici. Vous avez aussi, lorsque je remets ça dans un point de vue différent où les champs magnétiques sont vers vous ou dans le sens contraire. Vous avez cette fois J dans le plan. Vous avez des courbures de J, des pliures de J qui sont instables et qui engendrent la reconnexion. Et c'est ce qu'on simule ici, ce qu'ont simulé Sironi et Spitowski, et qui ont montré qu'on avait en effet énormément de particules avec une énergie assez considérable qui va être émise dans ces reconnexions. Alors cette reconnexion, elle peut prendre deux aspects. Ici, par exemple, dans un accélérateur qui est une étoile à neutrons ou un pulsar, vous avez un champ magnétique bipolaire avec des lignes qui sont opposées donc, de chaque côté. Ici, vous avez une nappe de courant. Les particules, elles sont d'abord un peu piégées ici. Vous avez un rayon de corotation parce que tout tourne avec l'étoile à neutrons, mais l'étoile à neutrons tourne très vite. Il arrive un moment où la vitesse est égale à la vitesse de la lumière et donc les particules ne peuvent plus suivre et donc on a des lignes de champ ouvertes et des particules qui vont sortir ici. Alors ça, c'est à deux dimensions. Par contre, dans un G et dans un GN, ce sera une dimension. Vous allez avoir un courant ici, un champ magnétique qui tourne autour et vous allez avoir des reconnexions de particules à l'instabilité qui vont être les endroits où les particules vont pouvoir être accélérées énormément. Donc on pense à ces deux accélérateurs possibles dans les G pour expliquer les ultra-hautes énergies des rayons cosmiques. Ici, vous voyez qu'on peut regarder une particule qui rentre dans cette nappe de courant, qui va être accélérée, jusqu'à ce que son rayon de l'armure sorte et puis qu'elle soit éjectée. Ça a été aussi simulé par Spitzer il y a assez longtemps. Et on pense que, grâce à cette variabilité très grande, que ce n'est pas le jet tout court, mais qu'il y a des petites zones sous le jet qui ont ces reconnexions. Et ainsi, on a des tailles un peu plus petites que même le jet et qui peut expliquer pourquoi il y a des très grandes variabilités, donc des reconnexions à l'intérieur du jet. D'où la simulation de, par le processus hadronique, l'observation du neutrino de très très haute énergie à 300 téraélectronvolts qui a été observé par IceCube. Donc ça a pu être simulé et ça a pu être compris. Donc maintenant, on comprend un petit peu ce fameux spectre de Blazar. On a bien décrit ce qui est la première pic radio IR optique du synchrotron. Et puis ici, du Compton inverse, des photons qui sont accélérés. Et enfin, le neutrino qui a été observé par IceCube. Donc en résumé, on a aujourd'hui plusieurs milliers, peut-être 4000 blazars connus, il y en aura sans doute encore plus bientôt. Les rayons gamma sont caractéristiques de ces blazars. La plupart des blazars de très haute énergie, la plupart des gamma rays de haute énergie viennent des blazars. Et puis les neutrinos, maintenant, on sait que les neutrinos de très haute énergie viennent aussi de ces blazars. On explique cela avec des effets Doppler qui peuvent aller de 5 à 100, donc une énorme amplification de l'énergie reçue par rapport à l'énergie intrinsèque. Et puis, soit on a un passage du synchrotron au Compton inverse, soit de façon autonome par leptonique, ou alors par les photons qui sont externes, qui viennent du G. Donc, ces phénomènes magnétiques expliquent la collimation par des instabilités, et en fait, on a montré que les jets de Blazar étaient des formidables accélérateurs de particules qui nous renseignent sur le mécanisme d'accélération. Donc je m'arrête là, je vous remercie.